portrait troublant d'une femme dans la Russie moderne. Un DVD et Blu-ray France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Et il est 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
En écoutant le 13h là, ce jeudi, j'ai eu une pensée pour Vincent, celui qui a laissé un message hier et qui avait l'air désespéré de voir que les choses changent jamais. Eh bien, tu vois, Vincent, il y a de quoi se réjouir. Il y a des gens qui arrivent à faire changer les choses. Regarde, le patronat, il va réussir à faire reculer le gouvernement sur la taxation de la plus-value. Mais voilà, comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Mitt Romney, il était en bas dans les sondages, et puis il a pris le meilleur sur Obama. Hein, comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Youpi, le monde va changer. Mitt Romney va devenir le chef d'entreprise des États-Unis, il paraît. Un milliardaire là-bas, c'est bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire, comme quoi, hein, comme quoi, le monde va changer. Le monde peut changer. En tout cas. Allez, bon courage, Vincent.
Salut Daniel, merci pour tes émissions. Voilà, tu vois, je suis artisan, je suis sur mon chantier. Alors, on est jeudi, je viens d'entendre les deux interlocuteurs, celui-là qui a expliqué qu'il était en voiture avec un copain à lui qui ne comprenait pas ton émission et que ça l'endormait. Et l'autre, le routier, qui ne pouvait pas parler de ton émission à des collègues parce qu'il ne comprenait rien à la société dans laquelle ils étaient et que les seules choses qui les intéressaient, c'était des futilités. Eh bien écoute, je ne peux pas rentrer en contact avec ces personnes-là, mais je tenais à te dire que même si on se retrouve tout seul à gueuler derrière notre poste ou à pleurer en écoutant tes émissions, j'espère que ça sert quand même à quelque chose et que les gens vont finir par comprendre. Voilà, là je vais me mettre à écouter Oxbow, Sanofi démarre, et puis bah écoute, à bientôt.
Oui, ami routier, ben sens-toi moins seul, parce que moi aussi, je suis routier au volant de mon camion, mais tu vois, j'en ai ras-le-bol, je vais presque plus manger au restaurant, parce qu'il y en a marre de tous ces cons qui comprennent plus rien, à rien. Donc, mais sache que t'es pas tout seul, moi j'ai le même raisonnement que toi. Allez, ciao, et puis bon courage.
Oui, cher ami routier, je viens d'entendre ton message sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et surtout, ne ferme pas ta gueule. C'est très bien, ouvre-la, parce que ta réflexion était extrêmement pertinente. C'est vraiment très bien que des gens comme toi puissent s'exprimer. Et exprime-toi. Brigitte de Valorbe.
Bon, d'abord, Daniel, merci pour tes émissions que j'écoute presque régulièrement. J'ai l'impression, en t'écoutant, que je deviens intelligent. Non, là, je me vante. Je suis juste un peu moins con. C'est déjà pas mal. Merci, grand merci. C'est Nestor de Francfort.
Question. Elle était moldave et son mari letton. Moldave, c'est pas grave. Oui, mais pourquoi letton? Salut.
Pierre Moscovici nous explique pourquoi il veut le traité budgétaire européen. Je cite, « Je ne veux pas d'une économie française prisonnière des marchés », dit-il. Mais il se contredit, car le fait même de vouloir le traité budgétaire prouve qu'il est prisonnier des marchés qui imposent ce traité.
Petite leçon de physique élémentaire. Quand le MEDEF avance, le gouvernement recule.
Eh ben bravo, je trouve que ce que vous avez laissé dans le message du... comme message dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, mérite un bravo. Voilà. Il y a des jours, je vous trouve absolument formidable. J'espère que vous, aujourd'hui, vous allez nous trouver formidables, ou plutôt l'équipe du monde diplomatique. On va passer 7 heures, en fait, avec eux. Comme chaque mois, on trouve l'équipe. Là, on va parler du temps. Serge Halimi a décidé de nous parler du temps. Il pense qu'il faudrait ralentir. Surprenant conseil, on va voir pourquoi. On va aller aux États-Unis avec Benoît Bréville, fièvre électorale aux États-Unis. Il va comparer deux Carolines, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. C'est pas tout à fait la même chose. Avec Gilles Ardina, un géographe, on s'intéressera à la compétitivité. La compétitivité, ça c'est un mot à la mode. On s'intéressera aussi aux tziganes avec Henriette Asseo, qui nous dira, ce qu'elle répète tout le temps, c'est que les Tziganes ne sont pas des nomades, et elle développera. Et puis, avec Evelyne Pieller, journaliste au Monde diplomatique, on s'intéressera à Rousseau, dont on célèbre le tricentenaire de la naissance, et on verra tous ceux dans l'histoire qui se sont référés et qui se sont inspirés de Rousseau. C'est extraordinaire, la variété. Et puis, en quoi est-ce que Rousseau nous concerne toujours aujourd'hui. Voilà un peu le menu. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, bonjour, amis des repères de la Bassie, j'y suis. Comme tous les premiers vendredis du mois, le Cotopo fait un débat sujet de société. Et ce mois-ci, c'est quelle perspective pour une transition énergétique des villes sobres en carbone, avec Elsa Mort, doctorante en géographie de l'Université du Maine. Venez, venez, au 14 rue Leno, 69001 Lyon. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.
Bah, salut à toute l'équipe. Eh ben voilà, il est 10h et des bananes. On est au boulot depuis 8h facilement. C'est les récoltes. Ouais, c'est les récoltes. Les récoltes de quoi? Ben, comme des milliers de Français, on est en train de récolter le bon chanvre français qui va venir abreuver nos camarades cannabinophiles. Ce serait peut-être intéressant, un de ces quatre, que tu fasses un reportage là-dessus. On est des milliers à faire bosser plein de gens, à faire revivre des régions grâce au bon chanvre. Voilà, alors quand tu veux, on est prêt.
Bonjour à MG de Strasbourg et alentour. Attention, notre lieu de réunion change temporairement. Nous avons rendez-vous le samedi 6 octobre à 15h au bar L'Artichaut, numéro 56, Grand Rue. À samedi.
Bonjour Daniel et son équipe, ceci est un appel au secours venu d'Alsace. L'Alsace va être lobotomisée. En effet, du 4 au 7 octobre se déroule ici le rallye d'Alsace qui compte pour le championnat du monde des rallyes. Cette course aura coûté près de 10 millions d'euros aux collectivités locales depuis 2010, car les sponsors Total, Red Bull, PlayStation, PSA, Crédit Mutuel et bien d'autres se gardent quelques millions d'euros pour leur patron et ne veulent pas tout payer. La vedette sera encore Sébastien Loeb, cette marionnette des industriels et des politiques locaux, évadée fiscale en Suisse qui se déplace en Hummer, magnifique exemple pour la jeunesse, diront certains. Heureusement, Daniel, tous les Alsaciens ne sont pas derrière ce rallye, ne sont pas des assoiffés de rallye. Depuis 3 ans, le collectif le rallye, composé d'associations, de syndicats, d'enseignants, d'universitaires, proteste et dénonce les messages contre-productifs véhiculés par une course de bagnole. Vitesse, gaspillage d'énergie, pollution banalisée. Mais nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre ici. Les deux journaux locaux, Dernière Nouvelle d'Alsace, Le Journal d'Alsace, sont eux aussi des sponsors du rallye. Ils font partie du même groupe financier que le Crédit Mutuel. Que reste-t-il alors de la liberté de la presse? Où est l'esprit critique? Daniel, merci de nous aider. Fais des émissions sur cette propagande automobile inutile, sur ces lobbies qui ne servent pas à l'intérêt général. C'était Marc de Mulhouse.
Ouais, salut à tous. Daniel, tu avais fait une émission il y a quelques semaines de ça, mais c'est pas vieux, avec Shlomo Sand, qui parlait de son bouquin « Comment la terre d'Israël fut inventée ». S'il y a des gens que ça intéresse, indépendamment du fait qu'ils peuvent réécouter ton émission, il sera présent sur le Festival du Livre de Montsartou le samedi 6 octobre à 11h30 à la salle Léo Lagrange. Une opportunité pour venir en débattre avec lui. Et puis c'est bien parce que nous, là, depuis ce matin, on tient le temps des éditions à Gone. Et puis il y a François, un gars qui fait partie du repère de Strasbourg, qui avait entendu l'annonce et qui est passé. Donc s'il y a d'autres personnes qui font partie des repères du coin ou qui sont en vacances dans le coin, vous pouvez passer au Festival du Livre de Montsartou où on est sur le stand. Ciao vive, portez-vous bien, la lutte elle est de plus en plus belle.
Salut Daniel, salut les AMG. Le vendredi 28 janvier 2011, s'est déroulée une action non violente de barbouillage d'écrans publicitaires à la station Aubert à Paris. 6 personnes membres du collectif des déboulonneurs ont désobéi à la loi, à visage découvert, et ce devant un public d'une trentaine de sympathisants, en écrivant des messages tels que « Stop pub »,« La pub pollue », »,« Libérant l'espace public de la pub » sur les nouveaux écrans publicitaires. Donc ces écrans, vous savez, c'est ceux qui sont en train d'inonder actuellement le métro parisien. Et il y en a aujourd'hui 1200, ils sont toujours plus intrusifs, ils sont énergivores. Donc pour la petite histoire, un écran en fait publicitaire consomme en 24 heures l'équivalent de 3 foyers de 4 personnes. Donc 1200 à Paris, ça en fait quand même pas mal comme équivalent. Et donc ces 6 personnes sont en procès à Paris le lundi 8 octobre à 13h30, donc au tribunal de grande instance. Et ils vont comparaître avec deux témoins, un scientifique pour parler des dangers sanitaires de la pub et un spécialiste en sobriété et efficacité énergétique, donc pour parler justement du gaspillage d'énergie. Et pour gagner, bah, ils ont quand même besoin de votre soutien, donc à tous. Donc n'hésitez pas à aller au procès ou vous renseigner sur leur site internet desboulonneurs.org. Voilà, c'était Khaled de Paris.
Black people, old people.
Hey, vous, les noirs, les jeunes, les pauvres et les étudiants.
Poor people and students. Guess what you all have in common?
Devinez ce que vous avez tous en commun?
The lawmakers are trying to fuck you in your
assholes. Les législateurs essaient de vous mettre profond.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse J'y suis avec l'équipe du Monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Et voilà, nous voilà avec le diplo de ce mois d'octobre, et on va commencer à ralentir. Voilà, c'est l'idée de Serge Halimi, ce mois-ci. Ralentissons. C'est pas dans vos habitudes, ça.
Bah, c'est-à-dire que c'est un papier sur la situation de la presse papier, qui est une situation de plus en plus difficile. Et l'une des choses que les lecteurs d'autrefois opposent à ceux qui leur demandent pourquoi ils ont arrêté de lire des journaux, d'acheter des journaux, c'est souvent qu'ils n'ont plus le temps. À vrai dire, ils vous disent aussi qu'ils n'ont plus le temps de flâner dans les rues ou d'aller à une exposition ou de regarder un film de plus de 90 minutes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit ou que ce soit sans être interrompu en permanence par un message auquel on doit répondre aussitôt parce que sinon, on n'aura pas le temps de le faire. Et l'une des choses qui est intéressante, c'est que ce sentiment de ne pas avoir le temps et donc de ne pas avoir le temps de lire la presse, est en partie née de l'apparition de technologies qui devaient nous permettre de gagner du temps. Mais non, parce que simultanément, cette exigence d'instantanéité s'est imposée. Non seulement il faut faire les choses, mais il faut les faire très vite, beaucoup plus souvent. Et le nombre, par exemple, des correspondants auxquels on doit répondre est plus nombreux qu'autrefois. Le nombre de tâches qu'on doit réaliser a explosé, parce que si vous dites que vous avez lu un livre, on vous dit « Ah tiens, c'est intéressant, est-ce que tu pourrais pas me l'envoyer ?» Et puis après, bon, vous allez l'envoyer en PDF ou je ne sais quoi. C'est des choses qu'autrefois on ne faisait pas et que maintenant on doit faire en permanence. On est toujours connecté, on ne peut plus prendre son temps parce qu'on n'a pas le temps de prendre son temps. Et dans le cas de la presse, ce qu'on entend souvent, c'est « on n'a plus le temps et on n'a pas les moyens ». Et la désaffection de la presse payante s'explique en partie par ça. Et d'ailleurs, quand on regarde autour de nous, je pense que chacun en a fait l'expérience, dans le métro, dans les trains, dans la rue, on voit de moins en moins de gens lire des journaux. Sauf peut-être des journaux gratuits, c'est-à-dire des prospectus publicitaires améliorés. Je reviens là de Hongrie, j'ai parlé à des parlementaires, et ils m'ont dit qu'ils ne lisaient pas les deux principaux quotidiens du pays. Quand j'ai interrogé les journalistes de ces deux quotidiens, ils m'ont avoué que 90% de leur diffusion, très modeste d'ailleurs, était assurée par voie d'abonnement. Ce qui revenait à dire qu'en dehors de Budapest, on ne trouve pas ces quotidiens. On ne peut même pas se les procurer le jour où on est curieux, parce qu'il y a une actualité qui survient, etc. On se dit « tiens, je vais acheter le journal ». Le journal n'est plus là. Et on sait qu'en France aussi, le nombre des points de distribution de presse n'a cessé de se réduire. Je crois qu'il y en a eu plus de 900 qui ont disparu l'année dernière. En France, même en période électorale, puisqu'en 2012, on a eu des élections, la diffusion de la presse d'actualité de janvier à août a baissé de 7,6% par rapport à l'année précédente. Alors qu'en général, en année électorale, ça remonte. Bref, ça, c'est la réalité. Alors je sais que cette réalité, il y a des tas de moyens de la maquiller. Et vous avez des journaux qui ont l'air de vous présenter leur situation comme toujours enviable. Ils ne cessent de gagner ceci ou cela, etc. Alors les moyens de la maquiller, il faut quand même que les gens la connaissent. Lorsque les journaux vous parlent de leur presse payante, il y a une partie de cette presse payante qui peut dépasser 20% qui est en réalité offerte à des gares, à des compagnies aériennes, à des épiceries de luxe, à des hôtels, à des taxis, à des écoles de commerce, à des parkings. Et c'est plus de 20% dans le cas des Échos, de Libération, du Figaro. Autre technique, les abonnés. Les magazines vous disent, on a 500 000 exemplaires, près de 70 à 80%, ce sont des abonnés. Mais ces abonnés, ils sont démarchés à des prix qui sont des prix complètement sacrifiés. C'est pas Leclerc, c'est du hard discount. Vous avez par exemple le Nouvel Observateur qui propose de s'abonner pour 13 numéros à 15 euros. C'est-à-dire avec un prix qui est inférieur à celui d'un quotidien. Et qui en plus vous dit, je cite, vous aurez une montre de collection Lib classique. Vous avez 15 euros, pour 15 euros, vous avez 13 numéros plus une montre. Qui dit mieux? Ben, l'Express dit mieux. Eux, ils vous proposent 45 numéros pour 45 euros. Et en bonus, je cite, un réveil à ambiance lumineuse et sonore. Ça, c'est les techniques. Donc pour la diffusion...
J'hésite entre la montre, le collection voilà. Et le réveil, comment lumineux et sonore.
Lumineux et sonore. Ah. Ce qui pour un réveil est bien, parce qu'effectivement, un réveil qui n'est pas sonore, c'est moins efficace. Bon, et puis, il y a d'autres techniques de ce genre. Par exemple, quand les sites vous disent « on a une audience gigantesque », par exemple, le Figaro vous dit « tant de millions de gens lisent la marque Le Figaro ». Ça veut dire quoi, lire la marque Le Figaro ? Ça veut dire lire les articles du Figaro en ligne, et ça, à la limite, bon, c'est normal. Mais ça veut dire aussi lire ou consulter tous les sites que Le Figaro a achetés. Ce qui fait que, par exemple, si vous consultez un site de voyage que Le Figaro a acheté, eh ben, vous êtes un lecteur de la marque Le Figaro. Si vous consultez un site de commande de spectacle que Le Figaro a acheté, vous êtes un lecteur de la marque Le Figaro. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les annonceurs. Donc voilà, ce sont des techniques qui permettent de maquiller les chiffres. Et enfin, de notre côté, au monde diplomatique, on ne dissimule pas la réalité. La diffusion du journal a baissé ces derniers mois. Avec Internet est née cette illusion que l'information gratuite existerait. Mais le financement de l'information, il exige de payer des enquêteurs, de payer des rédacteurs, des correcteurs, ou bien de voir ces enquêtes soit disparaître et ces articles payés par des annonceurs, par des publicitaires. Il y a le président du syndicat de la presse quotidienne nationale qui a calculé, et je pense que ce chiffre est assez parlant, qu'entre 2000 et 2010, le chiffre d'affaires publicitaire des moteurs de recherche est passé de 0 à 1,4 milliard d'euros, celui de la presse en ligne de 0 à 250 millions d'euros. Donc vous voyez, la part du lion de ces recettes en ligne a été absorbée par des moteurs publicitaires qui ne font que, en quelque sorte, collecter des informations produites par d'autres. Et comme Le Monde Diplomatique n'est pas un journal qui est principalement financé par la publicité, puisqu'il n'y en a pour ainsi dire jamais sur le site, et que ça représente 2% de notre chiffre d'affaires, ce modèle-là n'est pas le nôtre. Et c'est pour ça que nous avons donc besoin que les gens, non seulement nous lisent en ligne, mais que quand ils nous lisent en ligne, de temps en temps, ils paient, c'est-à-dire qu'ils soit ils achètent le journal en kiosque, soit ils s'abonnent, soit ils versent des dons, comme on leur propose de le faire en ce moment.
Est une tartine d'ennui. On court, on piétine, on s'abîme la mine. Chaque jour, il faut boire son café, lire les journaux. User de combine pour prendre le métro. Ah, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Ah, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Faut déjeuner en 5-7 sans même mâcher son bistec. Faire ses affaires d'arrache-pied, dormir d'un œil ou sur un pied. Ah, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Notre front pâlit sans même un prix. Car c'est un pétard marqué, on n'a même plus le temps de plisser. Ah, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Et dans 25 ans, ce sera encore plus effrayant. Tout sera mécanique, ça deviendra comique. Le doigt sur un bouton blanc sortira notre pantalon. Un signe électrique mettra nos chaussons. Oh, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Oh, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit. Démodés seront les autos, on aura son avion, sa chevaux. Dans la poche de son gilet, la TSF au grand complet. On naîtra le mardi sur les midis. On aura vieilli dès le mercredi. On mourra sans avoir le temps d'assister à son enterrement. Oh, quelle vie, quelle vie, quelle vie qu'on vit.
On continue avec le diplôme de ce mois d'octobre. On parlera des États-Unis, bien évidemment, puisque les élections approchent. On parlera de la compétitivité. Ça, c'est un mot qui est de plus en plus employé. un peu partout, et on va voir qu'est-ce que ce mot cache. On parlera des Tziganes avec Henriette Asseo, et puis on parlera de Jean-Jacques Rousseau avec Evelyne Pieler. Mais là, on en est aux États-Unis, où se trouvait il y a peu Benoît Bréville, plutôt dans le sud des États-Unis, Benoît.
Quand on parle effectivement des élections aux États-Unis, on a l'impression que les élections se passent dans tout le pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les élections se jouent surtout dans une poignée d'États, une douzaine d'États qui rassemblent seulement un tiers de la population et qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire ces États pivots qui basculent d'un camp à un autre. Parce que ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est qu'aux États-Unis, le scrutin ne se fait pas au niveau national, mais se fait État par État, et qu'un candidat qui gagne un État se fiche finalement de gagner avec une voix d'avance en écrasant son adversaire, de toute façon, ce sera lui qui remportera toutes les voix de l'État. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où, quand un État est acquis à l'un des deux camps, comme les New York, par exemple, pour Barack Obama, ou l'Utah pour Mitt Romney, eh ben, aucun des candidats n'a intérêt à faire campagne là-bas. Donc on se retrouve dans cette situation duale, et cette dualité est particulièrement visible dans le sud des États-Unis. Alors, le sud des États-Unis a cette particularité que pendant assez longtemps, il a voté comme un seul homme pour l'un des deux camps, donc pendant 100 ans pour les démocrates jusqu'aux années 70, puis pour les républicains à partir de ces années-là, ce qui vient qu'entre 1970 et 2008, seuls les présidents Carter et Clinton, qui étaient originaires du Sud tout en étant démocrates, sont parvenus à remporter un des anciens États de la Confédération. Or, la situation a changé en 2008 avec l'élection d'Obama, qui a réussi à remporter la Caroline du Nord, la Virginie et la Floride, qui constituent un cas un peu particulier, et qui a créé en fait une sorte de fracture dans le Sud entre un Sud profond, un Deep South, et puis un nouveau Sud qui a basculé du côté des swing states, de ces États particulièrement disputés. Alors, je compare un peu dans l'article qui est issu de ce reportage la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, puisque ces deux États ont voté depuis 1968, voté systématiquement pour le même candidat. Et en 2008, la Caroline du Sud a voté pour John McCain, donc le candidat républicain, et la Caroline du Nord pour Barack Obama, donc le candidat démocrate. Alors je me suis demandé pourquoi on était arrivé à cette division, et répondre à cette question éclaire non seulement le jeu politique dans le sud des États-Unis, mais aussi la stratégie électorale plus globale des deux partis. Parce qu'on peut constater, quand on voyage un petit peu là-bas, que la Caroline du Sud, c'est un État rural qui vit encore de son industrie traditionnelle, le textile, l'automobile, qui reste là parce qu'il y a des législations très défavorables aux syndicats. Tandis que la Caroline du Nord, pour faire face à la crise de l'industrie textile, a commencé à miser sur une économie hautement qualifiée, sur la recherche, sur l'éducation, et ce qui a entraîné un développement économique assez spectaculaire de la région, où aujourd'hui Charlotte, la principale ville de l'État, est la deuxième ville bancaire des États-Unis. C'est là d'ailleurs que se situait la Convention démocrate en septembre. L'État compte aussi 3 des 30 meilleures universités américaines, 14 des 500 plus grandes entreprises américaines, contre 0 pour la Caroline du Sud. Donc ce développement économique a engendré l'arrivée d'une nouvelle population, puisque depuis les années 90, la population a doublé. Et ces nouveaux habitants, ce sont aussi des nouveaux votants. Et ces nouveaux habitants, ce sont des diplômés, des travailleurs qualifiés, des gens appartenant aux minorités ethniques, des Noirs, des Hispaniques.
Démocrates.
Traditionnellement, on estime qu'à peu près les Hispaniques votent pour les deux tiers pour les démocrates. Les Afro-Américains, c'est plus de 95% pour les démocrates. Et donc, davantage que le débat politique en lui-même, c'est donc les mutations démographiques de l'État qui ont fait basculer la Caroline du Nord d'un camp à un autre. Et ce constat est d'ailleurs particulièrement visible au niveau local. J'analyse un peu plus précisément dans l'article deux comtés voisins, dont l'un qui abrite la ville de Charlotte a bénéficié de ce développement économique et abrite seulement 51% de blancs. Et le comté voisin qui abrite 75% de blancs, qui a des revenus 30% inférieurs, le premier a voté à 62% pour Obama et le second à 62% pour John McCain en 2008. Alors quand on entend ça, on peut pas s'empêcher de faire un peu un parallélisme entre le Parti socialiste et puis le Parti démocrate.
Socialiste et démocrate.
Le Parti socialiste français, oui. Et le Parti démocrate américain.
Okay.
Et de repenser à ce rapport de Terra Nova qui, en 2011, préconisait que le Parti socialiste s'axe désormais sur les habitants des banlieues, les femmes, les jeunes, et délaisse l'électorat ouvrier et les retraités qui ont forgé longtemps le socle de la gauche française. Et en fait, c'est un petit peu la même stratégie qu'adopte le parti démocrate aux États-Unis. Plutôt que de tenter de convaincre les blancs pauvres, les ruraux ou les retraités, il a patiemment attendu que la population de ces États change, la Caroline du Nord, la Virginie, pour commencer à y faire campagne et pour parvenir à s'y imposer. Et c'est un petit peu cette stratégie qu'ils essaient de rééditer cette année.
This election is going to be close.
Cette élection va être serrée.
Colorado is going to be close.
Au Colorado, ça va être très serré.
So I've got to make sure your friends are registered. I got to make sure
Donc,
you're
registered.
Donc, je veux
être sûr que vous tous et vos amis êtes bien inscrits sur les listes électorales.
In Colorado, you can
Ici,
register
dans le Colorado,
online.
Vous pouvez vous inscrire en
so
ligne.
So you've got to go to gotta-register.com.
Il suffit d'aller sur le site.
That's gotta-register.com. G-O-T-T-A.
Oui, ça s'écrit gotta. G-O-T-T-A.
I love to sing really popular songs. One, two, three, you know you love me. I know you Obamacare. You shout whenever, and I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Are we a business? Stop having abortions. We're just friends. What are you saying? Said there's another. And looked right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, for you, I would have done whatever, and I just can't believe we're here together, and I want to play it cool, but I'm Mitt Romney, I'll buy you anything, I'll buy you any company, and I'm in pieces. Baby, prepare me. And just shame me until you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 down.
Très peu de temps avant sa mort, Howard Zinn parlait de Barack Obama. Et il se félicitait de ce que y a un président noir, ce qui évidemment lui allait, ça correspondait tout à fait à la vie de Howard Zinn, qui avait consacré beaucoup de temps à l'abolition de la ségrégation, mais il était très sévère aussi envers Obama, et il a eu cette phrase, il a dit « c'est un président médiocre, donc dangereux ». Et ça, c'était en 2009. Vous avez envie de commenter ça, Serge?
Je dirais que la présidence...
Médiocre, donc dangereux.
La présidence a été médiocre. Le président n'est pas médiocre, mais le président n'est pas audacieux. Il est beaucoup trop prudent. Et il a été en permanence soucieux d'être un homme de compromis à un moment où la droite américaine ne voulait aucun compromis, estimait qu'il s'agissait d'une usurpation et voulait chasser l'usurpateur. Donc on a eu un président qui n'a cessé de tendre la main à un parti qui n'avait qu'une volonté, le voir déguerpir. Ce qui fait que pendant l'essentiel de la première partie de son mandat, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas réalisé grand-chose. Il a été très en deçà des attentes de son électorat. Et puis, comme au bout de 2 ans, les Américains ont été déçus, eh bien, lors des élections de la mi-mandat, les Républicains ont triomphé et ont empêché Obama de faire grand-chose pendant les 2 dernières années. Donc, effectivement, sa présidence est très médiocre. D'ailleurs, si vous regardiez le débat comme je l'ai fait, lors du moment qu'on lui a attribué pour conclure son propos, il n'a rien dit, si ce n'est un propos du type « j'ai fait de mon mieux pendant 4 ans, et si vous me réélisez, je continuerai à faire de mon mieux pendant les 4 prochaines années ». Enfin, c'est pas quelque chose de très exaltant. On a le sentiment que Barack Obama est à bout de souffle, que les projets qu'il avait en quelque sorte portés pendant son élection en 2008, et qui avait suscité un très grand enthousiasme, un taux de participation record, se sont très largement évanouis, évaporés, que son souci de concilier à la fois les républicains et les milieux d'affaires ont rétréci jour après jour sa présidence.
Alors, Nous, au cours du reportage qu'on a fait avec Guy, on a rencontré pas mal de démocrates, enfin pas mal de républicains aussi, pas mal de démocrates. Ils parlent tous comme vous, c'est-à-dire qu'ils sont très sévères avec Obama, mais ils vont un peu plus loin, là au point où ils en sont de la critique, la même que vous. Après, ils disent « oui, mais on votera quand même Obama parce qu'il y a Mitt Romney en face ». Et alors là, Mitt Romney leur sert d'épouvantail et ils se rabattent sur Obama. Mais c'est la raison. Ce sera la raison si Obama l'emporte, ce qui n'est pas évident. Maintenant, ce sera ça la raison.
Oui, c'est choisir le mal pour éviter le pire. Mais c'est une politique qui est désespérante. On a eu la même chose en France avec Sarkozy. Il fallait chasser Sarkozy et élire quiconque permettrait de chasser Sarkozy. Les Italiens ont eu la même chose avec Berlusconi, ce qui fait qu'ils ont porté au pouvoir Monti, lequel Monti gouverne avec le parti de Berlusconi. Enfin bon, on ne peut pas avoir une politique où les choix de fond n'existent pas ou sont occultés au profit de la détestation des personnes.
On continue avec le diplôme d'octobre. Et là, un mot que vous entendez à longueur de journée, c'est la compétitivité.
Il y aura sur ce quinquennat une trajectoire, un agenda de compétitivité. Nous, en 6 mois, nous aurons engagé des mesures structurelles sur la compétitivité. Pour moi, le désendettement est un facteur de compétitivité. Mais nous avons toujours dit, et François Hollande a toujours dit, et Jean-Marc Ayrault a toujours dit, qu'il y aurait juste après un paquet compétitivité, des mesures pour la compétitivité. Sur la compétitivité, le gouvernement proposera des mesures de compétitivité. Compétitivité coût, c'est la question du coût du travail, ou compétitivité prix, et compétitivité hors prix. La dette, c'est l'ennemi de l'économie. Chaque euro qu'on consacre au remboursement du service de la dette, c'est un euro en moins pour l'éducation, pour l'hôpital, pour la sécurité, pour la compétitivité. Et donc, désendettons-nous sur la compétitivité. Il faut redresser cette économie, il faut la rendre plus exportatrice. Elle a aujourd'hui un déficit de compétitivité que mesure un chiffre bien connu qui est le déficit du commerce extérieur. Le grand défi pour nous, c'est de rééquilibrer cette balance commerciale sur le quinquennat, c'est d'être à nouveau exportateur, conquérant. Moi, je veux une économie conquérante et ça passe par les entreprises et leur compétitivité, en effet.
C'était Moscovici, notre ministre éminent. Il a employé, en l'espace de 10 minutes, peut-être 20 fois le mot compétitivité. Et alors, Gilardina, vous avez étudié ce mot de près. Mais je voudrais savoir avec quelle qualité, parce que vous êtes géographe, quel rapport entre la géographie et la compétitivité déjà ?
Alors, à l'origine, ce terme de compétitivité intéresse surtout les économistes, puisque la compétitivité a été pendant des années réservée à l'analyse des entreprises et de leurs produits. Pour autant, depuis une vingtaine d'années, ce terme est sorti de la sphère économique pour rentrer dans la sphère politique, c'est-à-dire que les hommes politiques et les journalistes emploient de manière croissante le terme « compétitivité » pour qualifier des territoires, c'est-à-dire des entités géographiques. Et la géographie étant une science qui étudie les territoires, il est logique d'établir une géographie de la compétitivité pour dire à travers le monde quelles sont les zones plus ou moins compétitives, et puis aussi pour questionner le sens, c'est ce que vous disiez en introduction, le sens de ce mot, qu'est-ce que cache le mot compétitivité.
Alors, que cache-t-il ?
Alors, c'est assez complexe, assez compliqué. On peut remarquer, c'est ce que vous soulignez par rapport à M. Moscovici, un emploi de plus en plus systématique du terme compétitivité. Là, depuis plusieurs mois, c'est devenu le maître mot des discours et des politiques publiques. Et une des choses, mais on reviendra, il y en a beaucoup d'autres, qui est à craindre derrière ce slogan, parce qu'il s'agit d'un slogan politique plus qu'une théorie économique ou d'ailleurs géographique. Derrière ce slogan, il y a le risque de montrer aux opinions publiques certaines réformes comme étant indispensables. Je m'explique. Au nom de la compétitivité, c'est-à-dire au nom d'une pression et d'une concurrence extérieure, puisque le principe, c'est que les territoires sont en concurrence les uns contre les autres. Le territoire français, notre beau pays, subit donc, au sein de l'Union européenne, la compétition de nos voisins, et puis à l'échelle mondiale, au nom du libre-échange intégral, la compétition de l'ensemble des pays qui participent à cette mondialisation. Et donc, au nom de cette pression extérieure, il semble donc inéluctable de réformer le pays en disant « Écoutez, messieurs les électeurs, messieurs les salariés, on n'a plus trop votre avis à entendre, on n'a pas trop le choix, on est obligé de s'adapter. Et ce discours de la compétitivité est porteur de réformes que l'on présente comme obligatoires, car imposées de l'extérieur. Donc ça coupe un peu l'herbe sous le pied du débat démocratique, ça coupe l'herbe sous le pied également des responsables politiques qui, face à cette contrainte soi-disant inéluctable, prennent des mesures qui s'imposent à tous.
Mais ça, ça relève de la gestion. Mm-hmm. C'est un mot compétition, compétitivité, qui relève de la gestion comme la gestion d'une entreprise. Or, ce que vous rappelez très, très vite dans votre papier, c'est qu'un territoire, national, une nation, n'est pas une entreprise.
Voilà. Alors, c'est l'une des limites qui ont été soulignées notamment par Paul Krugman, dès l'émergence de ce discours sur la compétitivité des nations et des territoires. C'est-à-dire qu'en gros, il est abusif de comparer les nations à des entreprises. Et on a l'impression de plus en plus que nos chefs d'État, ce sont en fait des PDG qui géreraient la France ou n'importe quel pays comme s'il s'agissait d'une entreprise. Et ce discours sur la compétitivité participe justement de cette mode managériale, c'est-à-dire que les hommes politiques s'inspirent de ce qui se passe dans les entreprises pour administrer des territoires. Or, passer de l'un à l'autre pose toutes sortes de problèmes, et cette transposition, effectivement, permet également de mettre en doute la pertinence de ce discours sur la compétitivité et des mesures qui l'accompagnent.
Dans le mot compétitivité, c'est la compétition. Et voilà, l'équipe France, nous tous, on doit être une équipe qui gagne par rapport à ceux qui... l'autre camp, quoi, les autres équipes.
C'est vrai que c'est très intéressant, cette dimension équipe. Et d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ce discours sur la compétitivité n'est pas une nouvelle forme du patriotisme économique. C'est-à-dire le patriotisme, le nationalisme économique, s'est traditionnellement manifesté à travers l'histoire par un État fort, par du protectionnisme, par des subventions, par des politiques qui aujourd'hui sont condamnées par la logique de l'OMC et de l'Union européenne. Et donc, ce discours sur la compétitivité, c'est selon moi un patriotisme économique de substitution, mais qui en reste malheureusement énormément au niveau du discours. Parce que d'une part, les mesures pour la compétitivité sont loin d'aller dans le sens d'un intérêt national ou d'un intérêt majoritaire. Et puis en plus, c'est un slogan, c'est un discours qui souvent a du mal à se concrétiser dans de réelles politiques, contrairement au nationalisme économique tel qu'on l'a connu en France avec Colbert ou à d'autres époques, ou avec un État fort, un territoire protégé par des frontières, une stratégie économique, on avait effectivement de la consistance derrière le discours patriotique.
Ce que vous dites aussi, c'est que cette gestion managériale que suggère ce mot de compétitivité, cette gestion managériale à l'échelle d'un pays, d'une nation, d'un territoire, selon votre langage, ça évacue la culture, ça évacue tout le reste. Ça évacue la mémoire, la culture, l'histoire. Tout ça, ça devient des choses secondaires. Ce qui compte, c'est l'économie.
Oui, c'est-à-dire que le territoire tel qu'il est envisagé par les géographes et également tel qu'il est envisagé dans les sciences politiques est une entité, un espace borné par des frontières auquel on associe bien d'autres choses que de l'économie. Et d'ailleurs, l'économie est un vecteur d'identité très secondaire dans un territoire qui va s'identifier essentiellement à une histoire, éventuellement à des marqueurs culturels, religieux, à des marqueurs également idéologiques, où un territoire va s'identifier à un système politique, qui peut être la démocratie, qui peut être un autre système. Donc le territoire, c'est quelque chose qui va même avoir une dimension identitaire et affective. Et il est vrai qu'avec le discours sur la compétitivité des territoires, on évacue dans le discours ce qui fait finalement la consistance d'un territoire pour privilégier uniquement des paramètres économiques et financiers, des paramètres de coût. Et donc c'est une vision assez réductrice finalement de ce qu'est un territoire, notamment pour les géographes.
Compétitivité.
On continue avec le diplôme. Je suis très content de retrouver Henriette Asseo, qui est chercheuse et qui s'intéresse depuis de nombreuses années à la question des Roms et des Tziganes. Elle me regarde avec des gros yeux en disant « Non, on ne dit pas Roms, on doit dire Tziganes ». Et ce que vous vous évertuez à dire, Henriette, depuis des années, à chaque fois qu'on vous pose, que vous abordez ce sujet, c'est de dire « Les Tziganes ne sont pas nomades ». Et ils sont vraiment enfermés derrière cette image romanesque, romantique, qui parfois ils s'appliquent à eux-mêmes. Eux-mêmes se voient Tziganes et se vivent Tziganes, alors que vous dites non, ils ne sont pas nomades.
Effectivement, les Tziganes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle Tziganes ? C'est l'ensemble des populations au caractère culturel romani qui se trouvent dans les pays européens depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la constitution des sociétés européennes proprement dites. Ce n'est pas un peuple nomade qui serait arrivé du fin fond des Indes pour se répandre en Europe, c'est un peuple constitutif des sociétés européennes qui venait des États grecs, des bassins gréco-balkaniques, médiévaux, et qui effectivement, comme les autres Grecs, ont été contraints à quitter ces territoires qui ont été submergés par la vague ottomane et à se réfugier dans les pays occidentaux. Voilà. Donc il y a autant de sociétés romani, tziganes, qu'il y a de pays et de sociétés européennes. Et chaque société a inclus dans sa langue nationale, au moment de sa constitution, le nom qui permettait de qualifier de façon volontaire, et c'est dans la patrimonialisation historique la plus ancienne, ces tziganes. Bohémien en France, Zingari en Italie, Gitan, Ritanos en Espagne, Zigeuner en Allemagne, etc. Donc vous pouvez effectivement exercer des métiers itinérants, et ça c'est le cas des pays d'Europe occidentale à partir du XIXe siècle, mais vous n'êtes pas nomade. En Europe, ça n'existe pas. Donc ça c'est le problème anthropologique déjà résolu la question. Alors en plus, si je me tourne maintenant vers l'Europe centrale et orientale, où, selon l'opinion publique, se trouvent rassemblés ce qu'on appelle globalement les Roms, et qui sont effectivement beaucoup plus nombreux qu'à l'Ouest. Alors là, j'ai non seulement pas affaire à des nomades, mais j'ai affaire au contraire même des itinérants et des nomades. Tous les Tsigani, ou Tziganes, Roms, comme vous voudrez, de l'Europe centrale et orientale, appartenaient à l'Empire austro-hongrois, et ils étaient assignés à une économie domaniale dans laquelle ils avaient un statut particulier qui était plus favorable que celui des autres paysans. Donc, non seulement ils n'étaient pas persécutés, mais ils étaient protégés par la noblesse locale. Donc, leur problème arrive lorsque l'Empire austro-hongrois s'effondre après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, se pose la question de la constitution des États successeurs de cet empire austro-hongrois ou de l'empire russe ou de l'empire ottoman. Et là, ces États successeurs décident qu'ils vont créer une question rome. C'est-à-dire que des anciens tziganes protégés par la noblesse, ils feront, un peu à la manière des juifs, une catégorie à part qui ne sera pas associée à la nouvelle construction nationale fondée sur la démocratie. Donc la question tzigane contemporaine, celle dont on hérite maintenant, c'est un élément qui naît au XXe siècle, qui n'existe pas antérieurement, et qui est une affaire politique, qui naît au moment de la constitution de ces États, sur une base démocratique, avec une identification moderne des personnes. Et à l'intérieur de cette base démocratique, on crée des systèmes de partage entre les citoyens qui ont accès à la démocratie complète et ceux qui ne l'ont pas. Ça peut être une base sociale, comme en Occident, et ça peut être une base ethnique, comme dans l'Europe centrale et orientale. Les communistes arrivent au pouvoir, je passe sur les nazis, parce que tout le monde sait que les nazis pratiquent donc une extermination raciale à base d'expertise généalogique. J'en arrive aux communistes. Les communistes reprennent la tziganska politica, c'est-à-dire la technique qui consistait à imposer à ceux qu'on expertisait comme tziganes un enregistrement séparé et donc une citoyenneté à l'intérieur de ces États communistes différente et séparée. interdiction de circulation, donc je vois pas comment je peux être nomade dans un pays communiste qui de toute façon interdit, comme vous le savez très bien, pendant des années à quiconque de circuler, et assignation économique. Cette assignation économique, ça a été l'éradication ou la subordination de tout le monde rural, rome, tzigane, qui était composé d'un colonnat de 2500 villages pour la seule Slovaquie, encore dans les années 60. Et l'ensemble de cette population a été transférée délibérément vers les centres industriels des plans quinquennaux. Elle est devenue la main-d'œuvre privilégiée prolétarienne des plans quinquennaux. Passons encore les étapes. Arrivons à la chute du communisme. Vous mettez en place, venant de l'Ouest cette fois-ci, une idéologie qui est fondée sur le summum de l'hypocrisie technocratique que l'on peut inventer à l'heure actuelle. C'est-à-dire sur des pays qui sortent du communisme avec des économies effondrées par la nature même de la concentration collectiviste qui avait été imposée et par les choix industriels qui ont été faits, vous mettez en place la notion de libre concurrence, non pas entre les individus, mais entre les ethnies. C'est-à-dire, vous introduisez la démocratie ethnique et la liberté de concurrence. Évidemment, les ethnies compactes les plus fortes, les Allemands de Souabe, les Hongrois de tel endroit, etc., vont profiter de cette situation, récupérer la manne financière européenne et se débarrasser des ethnies plus faibles. Et donc, les Roms qui se trouvaient concentrés dans les centres industriels abandonnés ont été laissés pour compte de la transition, alors que des Hongrois de Transylvanie, mais des Roumains de tel autre endroit, des Souabes de tel autre, et ainsi de suite, récupérer l'argent européen. L'Europe trouve que c'est pas bien, qu'il faut que ces Roms, qui sont effectivement soumis à des conditions économiques épouvantables, et qui représentent 6 à 11% des pays que l'on appelle les PECO, c'est-à-dire de ceux qui sont entrés en Europe à partir de 2005, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, eh bien, il faut les faire sortir de cette situation spécifique. Et l'Europe invente la notion de minorité transnationale. Au lieu d'imposer à chaque État un partage des responsabilités sur l'existence même d'une subordination d'une partie de leur population soumise à une discrimination juridique héritée du communisme et qui n'avait jamais été supprimée, celle de la Tsiganska Politika, on en rajoute une couche en disant il faudra une politique séparée à l'égard des Roms au nom du fait qu'ils sont une minorité européenne transnationale. Et sur les 14 milliards d'euros qui ont été donnés par l'Europe et qui viennent de notre poche, en direction des PECO, pour soi-disant se mettre à niveau, 771 millions d'euros ont été consacrés dans les fonds structurels à destination de la politique d'émancipation des Roms. Bien entendu, elle est passée par les gouvernements locaux, et ces gouvernements locaux n'ont jamais attribué le moindre copec, ou le moindre centime, ou le moindre euro à ces familles romanies. Mais elles les ont accusées d'être responsable d'un processus de favoritisme de la part des institutions européennes, à mesure qu'elles s'émancipaient de la tutelle européenne, pour effectivement mettre en place une politique, une ethnopolitique, qui, à l'heure actuelle, est en train de virer au fascisme. La Hongrie, qui a été le laboratoire en 1993 du tout minoritaire, dans lequel 13 minorités autochtones, dont la Rome, qui était évidemment là depuis la nuit des temps, donc considérée comme autochtone, est devenue le laboratoire du fascisme postmoderne. Qu'est-ce que c'est le fascisme postmoderne européen ? C'est celui qui n'a pas besoin de parti unique, qui n'a pas besoin d'imposer un totalitarisme par en haut, parce que la société ethnicisée sécrète le totalitarisme par en bas.
La Bastille de Schiste sur France Inter.
On continue avec le diplôme de ce mois d'octobre avec Evelyne Pieller qui nous parle de Jean-Jacques Rousseau dont on célèbre le tricentenaire de la naissance en 1712. Le début du papier est assez vertigineux. Vous nous dites, toutes les interprétations qui sont faites de Rousseau à travers tout un tas de pays, mais vraiment toute la planète, et toutes les interprétations, ça va depuis Pol Pot jusqu'à Pétain, par exemple, qui ont trouvé chez Rousseau des sources d'inspiration et des références. Je pense qu'il y a très peu d'auteurs quand même, on parlait d'Orwell peut-être, mais enfin c'est pas la même ampleur, qui a été ainsi, qui a inspiré autant de monde.
Ouais, ça, c'est la chose peut-être la plus importante en réalité parce qu'elle est emblématique de ce que va apporter Rousseau. On pourrait penser que c'est un peu estompé, Rousseau. Si vous regardez là, ces histoires de centenaires, cette année, je trouve, ça a été un peu discret, m'a-t-il semblé. Je crois qu'on l'a quand même plutôt tiré du côté des arts. C'est pas plus mal. La dernière fois qu'on l'a célébré, comme inventeur de l'écologie, ce qui était vraiment très, très charmant. On l'a mêlé, on a fait une espèce de double coup avec un anniversaire aussi pour Voltaire et allons-y. Donc on pourrait penser que les enjeux Rousseau sont un peu oubliés, d'autant qu'il n'est pas très amusant à lire. Voltaire est quand même drôle. Rousseau n'a pas vraiment inventé l'humour, ni même l'ironie d'ailleurs. On a l'impression qu'il n'existe plus guère. Or, ce qu'il a posé essentiellement avec le contrat social, c'est quelque chose qui est déterminant, qui est absolument déterminant à partir de la Révolution, déjà à partir finalement de l'indépendance américaine et de la Constitution et du Bill of Rights, mais encore plus fortement à partir de la République française, parce qu'il va poser trois concepts dont on ne s'est jamais remis et qui continue à agiter énormément un certain type de gauche. Ça va être la question des droits naturels, la question de la souveraineté populaire. La République va se fonder, en réalité, sur cette possibilité-là de considérer que le peuple est souverain, ce qui implique que l'humanité est une, ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'à Rousseau, en réalité. C'est-à-dire, après tout, les esclaves existaient, hein. Ces droits naturels, ce sont la liberté et l'égalité, pour l'essentiel. Ils sont justifiés par la raison. C'est-à-dire que l'humain va être considéré comme caractérisé par la possibilité d'entendement, ce qui est une chose absolument magnifique. Et l'ensemble des humains, dans un territoire donné, ça va donner un peuple, et seul ce peuple a le droit de se donner sa liberté. Donc ces questions-là qui vont tourner autour de la question de la souveraineté du peuple, ce sont celles qu'on retrouve aujourd'hui. Quand vous avez Jacques Julliard qui est assez fasciné et fixé sur Rousseau, qui dit au fond la gauche ne s'en sortira jamais tant qu'elle n'en finira pas avec l'angélisme de Rousseau. C'est la question de la souveraineté populaire. C'est-à-dire de dire, non, c'est bien gentil tout ça, dire le peuple est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple, c'est vous, c'est n'importe quelle personne. Vous êtes soumis comme n'importe quel homme, d'abord à vos passions et non pas à la raison. Soyons sérieux. Ce qui est la mise en question définitive quand même de la possibilité véritable d'une démocratie qui serait identique à une république. Donc, les grandes questions qui sont posées à la fois par la diversité de réception de Rousseau et par la diversité de réception de ces concepts, c'est exactement ce qu'on a à reconsidérer en réalité aujourd'hui. Rousseau a été très, très déconsidéré probablement par une lecture totalement fallacieuse de la Révolution française et notamment de la Terreur, parce que Dieu sait qu'on aura reproché à Robespierre de dire que Rousseau, c'était le précepteur de l'humanité, de se revendiquer totalement. Et là, les différentes constitutions, y compris celle de 93, évidemment celle des Montagnards, se revendiquent de Rousseau. Donc on va rester sur cette idée. Rousseau, c'est ce qui va amener les dictatures populaires, en vérité. Bon, on n'interroge pas du tout ce que signifie véritablement la volonté générale. Comment le peuple se donne-t-il des lois? Alors là, ça devient assez captivant, je dois dire. Et c'est là qu'on va retrouver Pol Pot et éventuellement la révolution culturelle, etc. C'est considérer que chacun, justement parce qu'il est doué de raison, est capable de donner raison à la raison commune plutôt qu'à ses propres raisons. Donc toutes ces questions-là sont posées dans le cadre du contrat social et en réalité dans le cadre de la Révolution française et de ce qui va suivre, savoir si la démocratie et la République, c'est exactement la même chose. Et je crois que ça, c'est quand même une des questions qui se pose aujourd'hui. Un chantier à ouvrir, probablement, sur le conflictuel au sein même de la démocratie.
Vous avez deux jours, ce samedi et ce dimanche, pour écouter cette très belle émission avec le monde diplomatique, avec Edwin Pieler, Henriette Asseo, Gilles Ardina, Benoît Bréville et Serge Halimi. Gilles Ardina est l'auteur d'un « Comprendre la mondialisation » dit le son chez Ellipse. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site labas.org, ou bien vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook de l'émission. Sandrine Laurent et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui. Ciao. Antoine a monté cette émission avec Lucie Yacoun, Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulto, et Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 réclame.
Dis donc, tu fais de la comptabilité maintenant?
Avec la Matmut, je réapprends les tables d'addition.
Oh, c'est dingue ça!
J'additionne les réductions!
Tu additionnes pour payer moins cher, c'est possible ça?
C'est la Matmut qui le fait pour mon assurance auto.
Offre tarifaire soumise à conditions, disponible en agence ou sur matmut.fr.
Retrouvez Nicolas Toufflet et votre émission culte avec l'almanach 2013 du jeu des 1000 euros.
Un livre qui vous propose de tester et d'enrichir vos connaissances tout en vous amusant. Vous y trouverez bien sûr tous les repères du calendrier, mais aussi un panaché de jeux, 800 questions de culture générale et mes petits trésors de France.
L'almanach du jeu des 1000 euros 2013, une coédition France Inter.
Un quart d'heure de bonne humeur quotidienne assurée.
France Inter et le Théâtre des Célestins à Lyon présentent du 5 au 31 octobre « Mort d'un commis voyageur » d'Arthur Miller, mise en scène par Claudia Stavisky, avec notamment François Martouret et Hélène Alexandridis. C'est l'histoire d'un héros ordinaire, dépassé par un monde qu'il ne comprend plus, sacrifié par l'entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie et hanté par le déclassement social de sa famille. Retrouvez « Mort d'un commis voyageur » dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la basse si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delarroix. Salut.
Selon le procureur de la République, c'est une véritable gangrène qui a touché la BAC Nord de Marseille. 12 policiers de ce service ont été déférés au parquet. Ils sont soupçonnés d'avoir volé et extorqué de l'argent et de la drogue à des dealers. Le magistrat a dénoncé un système organisé de vol, de raquettes et de trafic de drogue dans une affaire qui est loin d'être terminée. Il évoque des conversations accablantes, des conversations enregistrées dans les voitures de police. 35 personnes poursuivies pour une vaste escroquerie bancaire sur Internet organisée depuis l'Ukraine et la Russie ont été relaxées. Décision du tribunal correctionnel de Paris. L'escroquerie consistait à récupérer sur Internet les identifiants de connexion ou les coordonnées bancaires de clients de banques françaises. L'argent frauduleusement récupéré était ensuite envoyé en Ukraine et en Russie. Le numéro 1 mondial du platine, Amplats, annonce le licenciement de 12 000 de ses mineurs en grève illégale du site de Rustenburg en Afrique du Sud. Ses employés ont refusé de se présenter devant les conseils de discipline. Ils ont donc été licenciés, précise un communiqué du groupe. Pour la première fois de notre histoire, nous partageons les valeurs de la démocratie, s'est réjoui le président tunisien Moncef Marzouki lors de la cérémonie d'ouverture du premier sommet 5+5 depuis 9 ans, un sommet qui s'est ouvert aujourd'hui à Malte. Il réunit 5 pays européens et 5 maghrébins. Les changements en cours sur la rive sud de la Méditerranée ne constituent pas une menace pour l'Europe, a poursuivi Moncef Marzouki en appelant par exemple à ne pas avoir peur des groupes salafistes. Plusieurs hypermarchés des Pays de la Loire ont été bloqués aujourd'hui par des agriculteurs agriculteurs, des agriculteurs qui exigent l'application d'un accord signé en 2011 pour répercuter le coût des matières premières agricoles sur les prix de la viande et du lait. Différentes enseignes ont été visées au Mans, à La Ferté-Bernard, à Nantes, Laval, Angers ou encore au Sable d'Olonne. En tennis, Marion Bartoli s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Pékin en quart de finale. Elle a battu l'Espagnol Carla Suarez Navarro 6-0, 2-6, 6-4. L'affrontera en demi-finale la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Victoria Azarenka. L'autre demi-finale opposera la Russe Maria Sharapova à la Chinoise Lina. Et chez les hommes, Jo Wilfried Tsonga est lui aussi qualifié pour les demi-finales. Ce sera sa sixième demi-finale de l'année.
Nous autres.
Si on regarde avec une loupe les statues de Notre-Dame, on voit des petits grains dedans. Ce sont des fossiles qui se sont accumulés.
Zoé Varier.
Des histoires de cailloux. Parce que les cailloux parlent, ils disent la mémoire de la terre à qui sait les entendre.
Tous les calcaires sont le résultat de la vie.
Patrick de Wever est de cela.
S'il n'y avait pas eu la vie, il n'y aurait pas eu cette roche.
Il est géologue, spécialiste des relations entre la géosphère et la biosphère.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
Quand j'entends ça, tu m'adores.
Mais c'est pas vrai. Ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Oui, non.
On peut dire des choses pareilles.
Oui.
Oui, madame.
Non.
Et vous, vous en pensez quoi?
France Inter, la voix est libre.
Et à 16h04, on parle musique avec Sylvie Chapelle. Bonjour.
Bonjour Dominique, on vous retrouve à
17h. À 17h.
À tout à l'heure.
Sylvie Chapelle, on parle musique.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter. Je vous propose un dialogue musical jusqu'à 17h avec un représentant du rap français. Chanteur ou plutôt diseur, il aime raconter des histoires avec sa poésie rythmée. Cet horticulteur de mots, selon Juliette Gréco, se fait rare depuis quelques années. Beaucoup se demandent ce qu'il devient. C'est une chance, il est avec nous aujourd'hui. On parle musique avec MC Solar. Claude MC, bonjour.
Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue. Pas de promo particulière, vous avez accepté notre invitation pour le plaisir de parler musique avec nous et évidemment on en est ravis. Excepté le titre Marche ou rêve que vous avez fait l'année dernière avec Tom Fire, vous n'avez pas sorti d'album depuis 2007, le dernier étant chapitre 7 justement. Vous êtes en phase d'observation, de maturation ou bien tout simplement en manque d'inspiration?
C'est un mélange des trois. Sans le manque d'inspiration, j'essaie de décanter. Comme un bon vin. Non, je regarde ce qui se passe autour. Puis je sais pas exactement quoi faire parce que j'ai fait tellement de choses que j'essaie d'apporter de la nouveauté ou de chercher quelque chose de neuf. Alors, ben j'observe, j'écoute de la musique.
Vous rencontrez des gens?
Je rencontre des gens, je sors, je vais dans des studios et ce qui est malheureux, c'est plus on sort, moins on a envie de faire pareil, sinon on a le sentiment de copier. Donc voilà, j'essaie de trouver ma petite voix.
On va voir ça tout à l'heure. On va entrer dans votre univers musical personnel avec l'un des titres que vous écoutez en ce moment, Ghost par Skip the Use. Qu'est-ce que vous aimez chez ces Lillois et en particulier dans ce titre?
Eh bien, je les ai vus un jour en live. Je croyais voir, un groupe normal avec un nom totalement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai vu un dynamisme incroyable, le groupe sur scène. On aurait dit à l'époque des Fishbones, qui était un groupe de rock dans les années 90. C'est la puissance et le dynamisme de ce groupe que je l'ai découvert sur scène. Et je voulais le faire découvrir.
Eh ben voilà, on va faire ça. Voici Ghost tiré de leur album intitulé Can't Be Late. Il est sorti cette année.
Time is running out, a ghost keeping me alive. I get what he means, you have to survive.
8 o'clock in the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your
angry eyes, you stay hidden. But I see you smile, I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I don't wanna wear this, I'm sorry. It's not raining today. Since this morning, your kisses on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. Saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I won't obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, listen.